Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La stratégie de lutte contre la corruption. Comment éradiquer la corruption en RDC? Quels sont les moyens les plus efficaces contre ces fléaux qui gangrènent la société congolaise, les institutions publiques et privées? Droit et citoyenneté aborde cette thématique au moment où le président de la République, Félix Tshisekedi, fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille pour moraliser la vie publique. Jeff Ngoyi Mulonda coordonne et présente ce magazine. Bienvenue à tous. Nous sommes à la fonction publique où ces agents dénoncent et proposent quelques stratégies.
Oui, merci. C'est l'occasion que nous vous offrez de nous exprimer par rapport à cette part de la société. En fait, pour nous, la corruption, c'est tout acte illégal, d'abord, qui enfreint les dispositions légales ou réglementaires dans une communauté donnée qui est caractérisée par des pots de vin. Mais c'est-à-dire exercer une activité de manière illégale en se faisant soudoyer. Voilà. Mais il y a également un cousin, ou je vais même dire une cousine, de la corruption qu'on appelle la concussion. C'est également une autre forme de la corruption. Celle-là, elle consiste plutôt à faire son devoir professionnel ou son devoir légal, mais en se faisant faire de l'argent. C'est-à-dire, moi, mon travail, c'est par exemple de signer des documents administratifs, mais je demande aux gens, je vais les signer, mais il faut me donner de l'argent pour que je les signe. Alors, à la différence peut-être de la corruption, c'est faire ce qui est interdit, mais en le faisant parce qu'on veut se faire de l'argent, on veut se faire un certain avantage. La concussion, par contre, elle, c'est faire ce qui est autorisé, mais le faire en exigeant, alors qu'il n'est pas prévu que l'on soit payé pour faire ce travail-là.
D'après vous, quels sont les moyens adéquats pour mettre fin à cette tare?
Non, en tout cas, il n'y a pas de solution pour combattre, pour mitiger la corruption, surtout dans notre société. Il faut des mesures répressives, exemplaires. Il le faut. En tout cas, il le faut au niveau de l'État. Avant qu'on en vienne, c'est vrai que les familles, les écoles, les églises, la société d'une manière générale a son rôle à jouer, mais je crois que l'État a des moyens plus coercitifs que toutes ces autres organisations. Il faut bannir la corruption déjà au sommet de l'État.
Et comment?
Comment la bannir? C'est-à-dire, il faut vulgariser des principes ou des dispositions sanctionnant la corruption. Il faut les vulgariser. Il faut que tout le monde sache que si je suis policier de circulation routière et qu'on m'attrape en train de prendre de l'argent illégalement en route, même la population qui est à côté peut être dangereuse pour moi, peut me punir. Voilà. Et quand on les vulgarise auprès de tout le monde, maintenant, il faut sévèrement réprimer ça. J'ai dit bien sévèrement, c'est-à-dire, on voit vraiment un premier ministre qui est sanctionné, qui est emprisonné, qui est incarcéré, qui est poursuivi judiciairement. Et à travers ça, on va avoir, au-delà des clivages, au-delà des associations politiques ou tout ça, je sais pas moi, on voit vraiment quelqu'un qui est sanctionné au niveau supérieur de l'État et les autres vont suivre, ils vont voir que c'est exemplaire. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui, on sait tous qu'il a volé, on sait tous qu'il a détruit, on sait tous qu'il a été corrompu ou qu'il a corrompu, même si on dit, bon, peut-être pour juste donner une bonne image, on lui dit, bon, on le fait débarquer de son poste, mais on le voit circuler librement, peut-être un jour briguer de nouvelles fonctions encore, ça c'est démotivant. L'État, il n'y a pas de volonté. Au-delà de tout ce qui est dit, vraiment, par rapport à ce que nous voyons, il n'y a pas de volonté. Il y a trop d'amitié, il y a trop d'état d'âme. Il y a vraiment beaucoup trop de sentiments dans ça. Peut-être que si c'est moi qui suis corrompu, je serai sanctionné. Mais si c'est quelqu'un qui a des alliances politiques, quelqu'un qui a un ancrage populaire, quelqu'un qui a des amis haut placés, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a pas de volonté. Et c'est triste, c'est malheureux, parce que ces affinités, ce sont elles qui ont conduit les pays dans la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Mais elles se consolident. Malheureusement, elles se consolident. Je vise vraiment, excusez-moi d'y revenir, je vise surtout le sommet de l'État, parce que c'est là que ça doit être instigué.
Que pensez-vous de la corruption?
Bon, je dirais déjà qu'il faudra vulgariser les principes de transparence, c'est-à-dire que tout le monde doit savoir les conséquences relatives à la corruption et mettre en place des politiques de transparence dans une organisation pour que ça facilite en fait les vérifications, la comptabilité. Déjà, il faudra assez que le personnel de l'administration publique soit intègre. Ils doivent être sensibilisés sur l'intégrité. Ils doivent intégrer dans leur muscle les valeurs valeurs professionnelles, surtout l'intégrité et le professionnalisme, de manière à ce qu'ils ne puissent pas tomber dans la corruption. Déjà ça, l'intégrité, ça doit déjà être la porte d'entrée pour tout personnel de l'administration publique. Et ensuite, vulgariser le principe de transparence.
Emmanuel Fouchy, juriste et cadre de l'UDPS, définit la corruption, son mode opératoire et ses différentes formes.
La corruption signifie littéralement la détérioration. Donc, les pourrissements, c'est l'avarie. Mais toujours de manière générale, la corruption signifie aussi une action par laquelle une personne est détournée de son devoir pour l'amener sur la voie qui les pousse à poser des actes contre l'honneur, la dignité, sous pression d'argent. Et concernant les formes de corruption, nous distinguons plusieurs sortes. Il y a la corruption active, il y a la corruption passive, il y a la corruption administrative, il y a la corruption aussi civile. Il y a plusieurs sortes quand nous entrons en détail.
Et quelle différence vous faites entre la corruption active et passive?
Oui, mais la corruption active consiste à ce que la personne, l'agent, le corrupteur se transporte directement vers la personne corrompue ou la personne à corrompre pour lui faire des promesses, pour lui faire les dons, pour lui proposer des sommes en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte qui rentre dans les cadres des fonctions de cette personne-là. Mais la corruption passive, c'est qu'on n'aborde pas directement la personne. On utilise des intermédiaires pour pouvoir consommer cette entreprise criminelle.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Droit et citoyenneté aborde la stratégie de lutte contre la corruption, considérée comme unitaire, un fléau qui gangrène la société, qui envahit, qui est permanente dans toutes les institutions publiques et comme privées. Tout le monde décrit cette corruption, mais personne n'est à mesure de proposer une thérapeutique de choc pour mettre fin à ces fléaux. Voilà pourquoi nous recevons un juriste, cadre de l'UDPS, en la personne d'Emmanuel Fouchy, pour parler de cette thématique. Est-ce qu'un don pour un service rendu à quelqu'un, une récompense, pense, cela peut être aussi considéré comme une corruption?
Tout à fait. Les dons, les cadeaux et bien d'autres pourboires, ça peut être considéré comme des actes rentrant dans le cadre de la corruption. Au moment où ces dons, ces cadeaux, ces présents, ces pourboires poussent la personne, détournent la personne à son devoir habituel pour qu'il puisse poser ou ne pas poser un acte qui rentre dans ses fonctions. Vous allez voir un agent public pour qu'il puisse aller signifier un acte quelconque à une autre personne. Alors vous savez que cette personne-là, c'est un dignitaire. On ne peut pas aller lui signifier cet acte-là. Vous donnez, par exemple, 500 dollars, 1000 dollars ou 200 dollars à cette personne-là pour qu'elle ne puisse pas aller poser cet acte-là. C'est un don que vous lui faites. Mais ce don-là doit être considéré comme étant la corruption puisque ça détourne la personne à ne pas poser des actes qui entre dans l'exercice de ses fonctions. Alors, c'est ainsi que l'article 147 bis du Code pénal congolais livre 2 incite tous ces actes-là parmi les actes qui constituent la corruption qui est prévue et punie par le Code pénal congolais livre 2.
Au cours d'un atelier d'évaluation du rapport des Nations Unies sur la Convention relative à la lutte contre la corruption, le vice-ministre de la Justice explique le cadre juridique international pour combattre ces fléaux. Selon Bernard Takaïté, la solution à cette problématique est fonction de volonté politique.
J'aimerais rappeler que si hier, chaque État luttait contre les fléaux de la corruption à travers sa législation nationale, désormais, cette lutte est devenue une préoccupation de toute la communauté internationale. C'est ainsi que, préoccupé notamment par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité de la société ou des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, durables et l'état de droit, les États membres des Nations Unies ont adopté en date du 31 octobre 2003 la Convention contre la corruption. Eu égard de son ampleur et au fait que la corruption n'est plus une affaire locale, mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, la République démocratique du Congo a procédé en date du 23 septembre 2010 à la ratification de cette convention en vertu de la loi numéro 06/014 du 12 juin 2006 l'ayant autorisée. Au terme de l'article 65 de la convention, chaque État est appelé à prendre des mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations découlant de cet instrument juridique international. Avant d'envisager l'adoption d'une loi anticorruption visant la mise en œuvre de la convention susmentionnée, la République démocratique du Congo se doit de passer par un examen de l'application de la convention qui donne lieu à un rapport et à un résumé analytique des observations et des recommandations. La corruption étant l'un des actes criminels le plus perpétrés et non réprimés, au point d'être érigé à un système, son éradication doit partir d'une volonté politique clairement affirmée et doit imprégner tous les niveaux de la hiérarchie du pays.
Quelle peine est prévue par la loi pour réprimer les antivaleurs en RDC? Emmanuel Fauchy.
C'est prévu, même avec des peines et tout ça. Vous voyez ici l'article 48, tout agent public ou toute autre personne qui aura commis un des actes prévus à l'article 147 bis sera puni de 6 mois à 2 ans de servitude pénale et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs congolais constants. La peine prévue à l'annulaire précédent pourra être portée au double du maximum en vue d'accomplir dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, tout ça. Mais combien de mandataires, combien de ministres, combien de députés et sénateurs ont été régulièrement entendus, régulièrement jugés publiquement, condamnés, ils sont allés purger leur peine.
Le règne de l'impunité.
Luzolo, il est vivant. Il était nommé conseiller spécial du chef de l'État.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
La stratégie de lutte contre la corruption. Écoutons à présent le point de vue du point focal de la RDC sur l'examen de la Convention des Nations Unies adoptée le 31 octobre 2003 contre la corruption.
Le gouvernement, le ministère de la Justice s'approprie de cette question. Voilà, mais vous devez comprendre que la lutte contre la corruption passe aussi par les renforcements des cadres légaux. Alors, il a été instauré un mécanisme d'examen, ce que nous appelons le mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, notre pays a été état parti depuis le 23 septembre 2010. Et depuis le 23 septembre 2010 jusqu'à 2016, nous avons accusé un retard par rapport au mécanisme d'examen. Voilà pourquoi nous avons été désignés comme point focal de la République pour l'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Des formations élaborées ont été faites, nous ont été données au niveau de Vienne. Et nous avons une expertise aguerrie à la matière et nous revenons pour ce travail-là. Nous sommes en train de dire que la question de la lutte contre la corruption, ça ne peut pas se limiter seulement au discours, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de discours, mais nous devons être beaucoup plus pragmatiques. Voilà pourquoi, au niveau de la cellule technique de lutte contre l'impunité, un service spécialisé au ministère de la Justice, dont je suis le point focal, dont je suis le coordonnateur, nous nous attelons à cette question. Nous avons beaucoup d'expérience par rapport à ça, donc vous allez comprendre tout ça. Donc, j'ai dit, nous levons pour la lutte contre la corruption. Et la multiplicité d'organes, c'est bien, nous devons avoir beaucoup plus d'organes. D'ailleurs, l'article 6 de la Convention Constitution encourage qu'un pays puisse se doter d'un ou plusieurs organes. Ça suffit pas, mais encore faut-il, il faut créer un élan d'intégrité. Il faut qu'on puisse savoir dans de différents postes à pourvoir, qu'on puisse placer des hommes qu'il faut, c'est-à-dire une base de données où on a des personnes intègres, même si personne n'est parfaite, mais des personnes qui puissent assumer, qui puissent donner des impulsions à un certain niveau. Donc, je crois que nous sommes en train de saluer la volonté du chef de l'État, mais l'îlot d'intégrité, on doit identifier certaines personnes qui travaillent très bien. Nous avons découvert des gens qui travaillent. Donc, dans les cas d'espèce, l'autorité a lancé une série d'ateliers d'enrichissement et de validation, non seulement cela, mais aussi les lancements du second cycle. En fait, le second cycle porte sur deux chapitres, les mesures préventives et notre chapitre, les recouvrements d'avoirs. Vous savez qu'on vient de parler de cette question du parquet financier. Donc, nous avons beaucoup d'argent qui est en train de traîner dans les poches des gens. Il faut qu'il y ait un parquet financier. Entre guillemets, si l'autorité arrivera à réussir cela, mais nous devons avoir une loi anticorruption unique. Et on se demande si on doit commencer d'abord à créer des organes. Mais d'abord, c'est la loi. Nous devons attendre aussi les recommandations de tous les examens. C'est comme ça que nous pouvons intégrer les différentes recommandations dans l'éventuelle législation unique de lutte contre la corruption.
Oui, monsieur le point focal, vous parlez de l'importance de créer plusieurs organes. La loi l'autorise. La création d'un parquet financier, alors que nous savons qu'il existe déjà des institutions de lutte contre la corruption, notamment le parquet financier près de la Cour des comptes. Il existe le parquet général près de la Cour de cassation qui fait aussi ce travail. Il existe le CEP. Pourquoi ne pas renforcer les capacités de ces organes qui existent déjà, qui se voient déjà affaiblis, au lieu d'en créer d'autres organes qui deviennent de trop pour ne rien apporter de nouveau?
Je dois vous dire une chose, c'est une bonne pratique. On encourage dans un pays qu'il y ait pluralité d'organes de lutte contre la corruption. Mais ce qu'on privilégie beaucoup plus, c'est la coordination dans la façon de travailler dans tous ces différents organes.
Et l'absence de contrôle et de suivi.
Donc, j'étais en train de dire, les parquets, vous avez parlé du parquet financier au niveau de la Cour de comptes. Donc, ça rentre dans les mêmes cadres. Donc, laissez d'abord les autorités réfléchir sur la question. Mais je crois que c'est une bonne pratique. Nous allons voir que si les attributions se chevauchent, on ne sait pas, mais laissez d'abord les choses.
Qu'en est-il du suivi, de contrôle?
Bon, ça, on va en parler prochainement.
La création d'un parquet financier contre la corruption, une des stratégies préconisées et soutenues par le député national Passisa Pamba, qui s'occupe de la question au niveau de l'Assemblée nationale.
Je crois que vous avez suivi le point focal. La Convention des Nations Unies, en son article 206, demande aux États parties de créer des institutions spécifiques, des institutions indépendantes en matière de lutte contre la corruption. Vous savez, quand on parle de la lutte contre la corruption, c'est un fait spécifique, parce que vous savez que les corrupteurs et les corrompus sont des hommes tout à fait intelligents, qui ont étudié déjà les mécanismes judiciaires, qui ont étudié les institutions qui existent, et par tous les moyens, ils contournent. Et si on exige la création de ces institutions spécifiques, c'est pour des comportements spécifiques, c'est pour des actes spécifiques, c'est pour des tribunaux et des cours spécifiques par rapport aux infractions également spécifiques. Donc, c'est pas un double emploi, c'est tout à fait normal que nous puissions nous conformer. Vous allez vous rendre compte que dans cet examen qui est en train d'être opéré, le code pénal congolais ne répond plus aujourd'hui, ne s'adapte plus aux exigences de lutte contre la corruption. Voilà donc pourquoi.
Vous parlez d'une institution spécifique indépendante.
Bien sûr.
Mais il existe un parquet financier indépendant près de la Cour des comptes.
Il peut exister, mais lorsque nous parlons de matières spécifiques, nous pensons que, comme l'a d'ailleurs recommandé la Convention des Nations Unies, que l'on puisse créer ces structures spéciales en vue de faire face à la spécificité de la corruption.
Donc, le parquet financier qui existe là,
il existe,
il est plus utile.
Il existe, il agira dans les limites de ses obligations, mais ce parquet-là également a des attributions singulières et qui lui permettent d'aller au-delà de la limitation.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Droit et citoyenneté aborde la stratégie de lutte contre la corruption. On revient une fois de plus à notre invité Emmanuel Fauchy pour évoquer la dite stratégie et des solutions envisagées avant de conclure.
Nous disons ceci, on ne peut pas combattre la corruption en laissant les gens dans des inégalités sociales, laisser les gens dans la précarité. Hein? C'est malheureux. Quelqu'un qui doit aller trancher des affaires, qui amène beaucoup d'argent, il n'est pas payé. Je voudrais vous dire ici, dans notre pays, les juges consulaires rendent la mission régalienne. La justice, c'est la mission régalienne. C'est la mission de l'État, de tous les temps, depuis l'État gendarme, l'État... Providence, l'État opérateur économique aujourd'hui, la justice, la diplomatie sont toujours les charges régaliennes de l'État. Comment on peut parler d'un bon climat des affaires dès lors que les juges consulaires qui participent à la distribution de la justice dans le monde des affaires sont impayés par l'État? C'est une manière d'encourager la corruption. Et les juges permanents qui sont là, ils vont se taper. Pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt est le mobile de toute action. Les juges permanents seront là. Ils vont dire, non, non, si vous ne m'amenez pas la voiture, moi je ne dois pas faire les pieds, je ne dois pas prendre les transports en commun, il faut que j'ai tel véhicule, il faut que j'ai ceci. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Justice, actuellement président du Sénat, l'avait dit, il y a trois V, voiture, veste, villa. Vous voyez, quand les gens vivent dans des conditions précaires, ils sont tentés de recevoir l'argent, de recevoir les dons, de recevoir les avantages. Et les dons, le présent, vont corrompre, vont aveugler le clairvoyant, ils vont corrompre les justes. Donc, pour lutter efficacement contre la corruption, il faut d'abord mettre les gens dans les conditions sociales correctes. Humaine. Il faut leur payer un salaire humain, un salaire correct, un salaire au standard international. Il faut les salaires au standard international. Et lorsque les gens seront mis dans les conditions humaines, dans les conditions correctes, il faut les contrôler. Et là, nous revenons aux quatre impératifs donnés par notre ami Fayol. Fayol disait, gouverner, gérer, se prévoir. Il faut d'abord prévoir. Prévoir, c'est quoi? C'est scruter l'avenir. Pouvoir, ce que vous pouvez faire, c'est projeter par exemple le pays, hein, l'État congolais, la République démocratique du Congo, en tant que famille, en tant que clan, en tant qu'entité, pour voir ce que la République démocratique du Congo peut être demain. Le dirigeant doit avoir un long cou comme girafe pour voir loin, pour anticiper l'avenir. Et c'est ce que les leaders charismatiques, le feu Étienne Tshisekedi de Mulumba de Reuze mémoire, faisait. Et nous l'appelions prophète politique puisqu'il avait vraiment une longueur par rapport aux autres compatriotes. Gérer, gouverner, c'est prévoir, c'est coordonner. Coordonner, c'est mettre ensemble les différentes structures pour qu'elles soient en harmonie, pour travailler correctement. Quand vous allez coordonner, vous mettez les structures en harmonie, en place pour travailler, vous allez commander. Et commander, c'est donner les ordres pour que les gens puissent les exécuter. Nous avons les gouvernants qui commandent, qui donnent les ordres, et les gouvernés qui doivent exécuter ces ordres-là. Nous avons les dirigeants et les dirigés. Hein. Les dirigeants sont là pour diriger, pour commander, pour donner les ordres, et ils doivent maintenant les contrôler. Le quatrième impératif, c'est contrôler. Contrôler, c'est quoi? C'est faire l'inspection pour savoir si les ordres donnés ont été respectés, si les structures ont fonctionné en harmonie. Évaluer et voir s'il y a eu les couacs. Et le contrôle doit être suivi des sanctions positives ou négatives. Les sanctions positives, quand les gens ont bien travaillé, il faut les encourager, il faut les promouvoir. C'est la méritocratie. Mais dans l'ancien régime, aujourd'hui, malheureusement, la plupart des animateurs des structures que nous avons sont issus du régime passé. Jusque-là, le gouvernement Ilunga Ilunkamba n'a qu'un mois, quelques semaines. Donc, vous savez, le gouvernement, jusque-là, n'a proposé des animateurs à la nomination par le chef de l'État. Donc, c'est un problème que nous avons. Donc, pour que les choses changent, nous devons savoir, prévoir, coordonner, commander, contrôler. Contrôler signifie évaluation, signifie la sanction. Positive, c'est-à-dire une sanction encourageante pour les gens qui ont bien travaillé, qui ont mérité, et négative pour ceux qui n'ont pas mérité. On peut les relever de leurs fonctions, on peut diligenter des poursuites à leur charge, hein, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur condamnation, si condamnation il y a. C'est voilà. Cela qui va nous amener à ce que les choses changent. C'est voilà. Pour cela qu'il faut d'abord la transformation de la mentalité du peuple congolais. Il faut recréer le peuple congolais
pour qu'ils comprennent les choses ont changé. La démocratie est arrivée dans notre pays. Il y a un nouveau vent qui souffle. Le Congo est en train d'être gouverné autrement.
Donc il faut avoir un homme nouveau.
Voilà, l'homme c'est... nouveau, oui. Hein, pour un esprit nouveau. On ne peut pas mettre un esprit nouveau, un vin nouveau dans des vieilles outres. Oui. Vous voyez, hein? Donc ça, c'est ce que la parole de Dieu nous conseille. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Vous ne pouvez pas prendre un morceau de tissu pour le coller à un vieux vêtement, hein, usé. Hein? Ça va encore se déchirer davantage. Donc voilà, il faudrait changer la mentalité, que nous ayons un homme nouveau, hein, pour un nouvel esprit.
Donc, les quatre impératifs du pouvoir selon Fayol,
prévoir,
ça ordonner, partout, commander,
voilà,
et contrôler, qui implique le suivi, l'évaluation,
oui, la sanction. Oui, s'il n'y a pas de sanction, voilà, il n'y a rien. Mais avant cela, oui, il faut mettre les gens dans des conditions humaines. Il faut un traitement
au standard. Vous
voyez, aujourd'hui,
que tout le monde puisse avoir la même chance.
Vous ne pouvez pas amener les dossiers au parquet et on les traite correctement. Il y a même des magistrats du parquet qui changent, hein, qui appliquent la métamorphose. Le plaignant devient parfois l'accusé et il est arrêté et condamné. Vous comprenez? On va vous mettre sous MAP, sous mandat d'arrêt provisoire, pour vous exiger des sommes exorbitantes comme caution de mise en liberté provisoire. On vous envoie à Macal. Tout ça pour vous terroriser, vous intimider, hein, vous mettre dans des conditions afin de venir donner de l'argent. Or, la présomption d'innocence est d'ordre constitutionnel. Mais ce n'est pas appliqué. Ce sont des pratiques de corruption, mais qui passent comme ça impunies. La justice élève la nation tout entière. Et quand la justice est abandonnée, la justice est en train de naviguer dans la corruption. Voilà. Alors, on va élever la nation comment? Il y a des magistrats qui sont sous-payés ou ceux qui sont impayés. Je vous ai cité les cas des juges consulaires qui ne sont pas payés. Ça fait plus de 10 ans que les tribunaux de commerce, hein, sont ouverts. Donc ces juges-là ne sont pas payés. Mais ils vont juger. Ils vont juger comment. Ils vont trouver l'argent où pour se nourrir, pour acheter du carburant, pour amortir leur véhicule. Comment? C'est que l'État, indirectement, soutient la corruption. Il faut que ces gens-là aillent auprès des avocats et de leurs clients. Parfois même, c'est une occasion pour les avocats de rançonner leurs clients. Oh, donnez-nous autant d'argent, nous allons donner au juge. Donnez-nous autant d'argent, nous allons donner au magistrat. Et quand on leur donne cet argent, comme il n'y a pas de décharge, ils prennent une bonne partie et ils vont donner des miettes aux autres.
Voilà la corruption que nous décrions. Merci beaucoup. Nous recevions Emmanuel Fouchy, juriste et cadre de l'UDPS.
Merci beaucoup, Dieu.
Voilà, droit et citoyenneté d'aujourd'hui sur la stratégie de lutte contre la corruption est terminée. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de rester toujours avec Radio Okapi pour la suite de ces programmes.